Donc on est aujourd'hui le 1er janvier, on est le 5 Tevet, et on continue le cours sur le Tzemar Tzedek, la page 262 dans le livre Derech Mitzvotecha, Shoresh Mitzvot Atfila. On est une quinzaine de lignes avant la fin de la page 262. Ukemochen חיות והתאבות הרצון והחוכמה והדעת ממנו יתברך וגם כן על ידי זיו והערה בעלמא. Donc comme on a expliqué hier, pour bien comprendre, il faut bien sûr revenir aux cours qui ont commencé déjà pratiquement depuis plusieurs jours. Et donc כמוכן חיות והתאבות הרצון והחוכמה והדעת ממנו יתברך וגם כן על ידי זיו והערה בעלמא. Pas seulement le monde et tout ce qu'il contient et proviennent d'un rayonnement du divin, mais même au niveau des qualités du divin, c'est-à-dire, d'une certaine manière, les forces qui lui permettent de fonctionner, d'avoir un rapport avec le monde comme sa volonté, ou bien sa chokhma, son intelligence, vedaat, sa connaissance, tout ça, ou gamken aliedeziv et arabe et alma, ce n'est qu'un simple rayonnement. Donc là, il dit clairement ce que l'on survole déjà depuis de nombreux jours, c'est que à la différence de l'homme, ou bien évidemment la volonté de l'homme n'est pas un rayonnement de l'homme, la volonté de l'homme c'est tout l'homme, comme on dit que retsono shel adam zehu kvodo, la véritable dignité d'un homme c'est sa volonté. Et selon la volonté d'un homme, tu juges véritablement sa valeur, sa grandeur, son intériorité se dévoile avec sa capacité de vouloir et d'être déterminé à obtenir ce à quoi il croit. Et donc, c'est clair qu'au niveau d'un homme, la volonté est véritablement une partie de l'essence, si pas toute l'essence. Au niveau de Dieu, il rajoute ici que pas seulement donc le monde, c'est-à-dire nous les créatures, qui sommes entre un milliard de parenthèses à l'extérieur de lui, pas seulement nous sommes le fait d'un rayonnement, mais même ce qui est entre un milliard de parenthèses à l'intérieur de lui, comme ses qualités, même ça, ce n'est qu'un rayonnement. Comme on a expliqué déjà, on ne va pas se répéter à l'infini, bien que lui se répète à l'infini, on doit le suivre malgré tout. Mais comme on l'a déjà dit, que même quand Dieu veut quelque chose, ce vouloir n'est qu'un rayonnement, ça veut dire que ça n'engage pas tout son être. On a donné l'exemple, je pense, le plus fabuleux, en tout cas tel que les commentaires l'expliquent, le plus fabuleux de toute la Torah, c'est ce déploiement de force et de colère que Dieu dévoile à l'égard de Moshe pour le persuader pendant plus d'une semaine, disent nos maîtres, de le persuader d'accepter la mission d'être le libérateur. Et quand Moshe refuse, il se met en colère contre lui. Et quand finalement Moshe accepte, Moshe est à peine en chemin pour aller sortir Israël d'Égypte, que pour une minuscule microscopique faute que Moshe a fait, il lui envoie un serpent pour le tuer en plein désert. Alors, je pense que t'as besoin de lui ou t'as pas besoin de lui? C'est bien la preuve qu'en vérité, même quand Hachem donne l'impression qu'il a besoin, en vérité, il n'a pas besoin. C'est-à-dire que Dieu n'est jamais prisonnier à l'intérieur de quoi que ce soit. C'est quelque chose qui est fou pour nous de comprendre une chose pareille. C'est fou. Mais Dieu n'est pas prisonnier. Et donc, comme dans son essence, il incarne la liberté absolue, plus on se rapproche de cette essence, plus on se rapproche de lui, et plus on va bénéficier nous aussi de cette force donc de liberté absolue. Et finalement, c'est ça le paradoxe, on peut dire, du service divin. Plus tu te soumets à Dieu, et plus tu te libères de toute emprise, de toute règle, de toute limite. C'est ça le paradoxe fou, on pourrait dire, de cet attachement à Dieu, qui d'un côté te demande une certaine soumission, mais d'un autre côté va te permettre de t'approcher de son essence et au fur et à mesure de te libérer complètement. Et donc, c'est ce qu'il explique ici. La reine shinui ratzon eno mechayev shinui beatzmuto chaz veshalom. C'est pour ça que même si Hachem change d'avis, il ne change pas son essence. C'est-à-dire que Hachem peut très bien décider de prendre Moshe comme libérateur, mais si pour une raison quelconque ça ne marche pas, tout de suite il envoie un autre. nul n'est indispensable s'applique d'une manière absolue au niveau d'Hachem. Al kol panim, yatsa lanu medivre agaon maharal. Il y a d'ailleurs une très très belle histoire à ce sujet-là. C'était avec le Rav de Volojine, la fameuse yeshiva lituanienne Volojine, qui était pratiquement le Poniovitch de l'époque pendant des décennies. Et il y a eu un moment, on sait très bien que les Russes essayaient par tous les moyens constamment de fermer les yeshivot, ou de freiner en tous les cas leur extension. Et donc il y a eu un moment, avec l'appui d'ailleurs des fameux maskilim de Berlin, ces juifs éclairés et complètement obscurs de Berlin, qui payaient des sommes folles au gouvernement russe et polonais pour les encourager à faire des décrets contre ces juifs arriérés qui freinaient le progrès et l'émancipation d'Israël. Et donc les juifs de Berlin sont arrivés à obtenir donc du gouvernement russe d'imposer dans toutes les écoles religieuses, pas seulement les juives, bien que l'intention était bien sûr d'arriver à la yeshiva, puisque pour les autres c'est clair que ça allait être accepté, donc d'imposer une heure, je crois, c'était de mathématiques, ou peu importe, bon, d'une science profane, X, peu importe. Chose qui n'était pas encore, on pourrait dire, obligatoire dans les écoles religieuses russes, orthodoxes ou autres. C'est-à-dire que l'école décidait quel genre de matière profane elle enseignait à ses élèves. Toute l'intention de la Xéra, c'était d'arriver bien sûr au yeshivot, car c'est clair que toutes les autres écoles allaient accepter, pourquoi pas. Mais quand on est arrivé à la yeshiva dans le contexte d'il y a à peu près 200 ans, c'était quelque chose qui n'était pas aussi évident, parce qu'il est absolument clair que ce n'est pas le fait d'apprendre les mathématiques qui dérange, mais c'est que derrière cette demande, il y avait donc une intention, petit à petit, de ronger et jusqu'à pratiquement éteindre la voie de la Torah en transformant la yeshiva en simple école, et donc en lui enlevant tout son sens, parce qu'à partir du moment où tu vas accepter une fois, après il y aurait une autre demande, une autre demande, une autre demande, et tu ne sais pas où ça va s'arrêter, comme ça a toujours été le cas dans notre relation avec les nations en exil. Et donc les pkidim sont arrivés, comment on dit les pkidim, les fonctionnaires sont arrivés chez le Rav de Volojine, ils lui ont dit, voilà, il y a maintenant une nouvelle loi que le tsar demande, que dans toutes les écoles de l'Empire, on apprenne une heure de X. Et bien sûr, le Rav de Volojine a compris qu'est-ce qui se cachait derrière, et il s'est enfermé pendant quelques heures dans son bureau, et il devait donner la réponse dans la journée. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est mis à l'entrée de la yeshiva, il a pris la clé de la yeshiva, et il a fait exactement ce que les Kohanim avaient fait 2000 ans auparavant, juste avant d'être massacrés et que le temple soit détruit. Il a pris les clés de la yeshiva, il les a jetées vers le ciel, et il a dit à Hachem, écoute, moi je ne suis pas le maître du monde, d'accord ? C'est toi qui es responsable de l'avenir de ta Torah, c'est pas moi. Moi ce que tu m'as demandé, c'est d'enseigner la Torah et pas d'enseigner les mathématiques. Alors toi, débrouille-toi avec ta Torah. Et il a jeté les clés en haut, et bien évidemment, la réponse était non. Et donc, après, quand il a expliqué, bien sûr, vous imaginez le déluge de questions qui sont tombées sur lui, mais enfin, pour une heure, tu aurais pu sauver 8 heures, tu n'avais qu'à rajouter une heure de Torah à la place de l'heure de mathématiques, etc. Ils ont fermé la yeshiva, et puis, grâce à Dieu, comme on sait, elle s'est multipliée comme des petits pains. Selon la promesse qui est dans la Torah, que plus on nous oppresse et plus on se multiplie. Et donc, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il a voulu montrer par là, c'est ce qu'il a expliqué, qu'un homme doit comprendre que le maître du monde n'est pas limité. D'accord ? Et que nous, en tant que shlichim, on ne doit pas essayer de prendre sa place. On ne doit pas paniquer. Ah oui, mais quoi, mais qu'est-ce, machin ? L'homme a toujours tendance à vouloir remplacer Dieu. Pourquoi ? Parce que l'homme, lui, il subit, il souffre des limites, il raisonne à très très court terme, il fait des raisonnements extrêmement, on pourrait dire, cartésiens, et ces raisonnements-là n'ont pas de prise sur Dieu, qui est infiniment libre. Et donc il peut très bien se débrouiller, on ferme Volojine, on rouvra 10 Volojine ailleurs, c'est pas un problème. Dans un contexte, ne comprenez pas mal ce que je veux dire, et je vous dis à l'avance, ne soyez pas idiots, et ne posez pas la question bête à ce que je vais dire. Comprenez ce que je vais dire. Et j'explique, maintenant vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Quand toutes les yeshivot d'Europe ont été détruites pendant la guerre, si on s'était arrêté là, on aurait pu dire catastrophe, etc. Elles ont refleuri plus que jamais en Eretz Israël et en Amérique et même en France, etc. En tout cas en Eretz Israël, jamais il y a eu autant de yeshivas dans le Ham Israël que depuis qu'on les a détruites en Lituanie, en Pologne et en Russie. Et donc on voit bien que Dieu n'est pas limité. Ça veut dire qu'il est capable de faire ce qu'il veut d'une manière complètement libre. D'accord ? Et donc ceux qui, quand on a vu toutes les yeshivot de Lituanie, de Pologne détruites, ceux qui à ce moment-là auraient pu se dire c'est la fin de la Torah, et il a fallu que quelques années pour se rendre compte que c'était le début d'un renouveau de Torah comme jamais il y a eu dans l'histoire, peut-être des millénaires au préalable. C'est donc c'est fou, la liberté historique de Dieu, c'est-à-dire la liberté de Dieu dans l'histoire, pardon. Il fait ce qu'il veut, comme il le veut, et rien ne peut limiter sa volonté qui provient au niveau de l'essence. Hachem a décidé que la voix de la Torah serait entendue dans le Ham Israël, et ce n'est pas parce qu'on l'a détruite en Lituanie qu'elle est détruite partout dans le monde, elle peut repousser partout. Et donc, c'est pour ça que nous aussi, dans notre histoire, on doit toujours comprendre que finalement, il y a l'histoire vue côté homme, il y a l'histoire vue côté Dieu. Et vu côté Dieu, les choses ne sont jamais aussi dramatiques qu'elles le sont vu côté homme, parce qu'il est essentiellement libre, et rien ne peut empêcher sa volonté d'aller là où elle veut, là où il veut qu'elle aille. Et donc on continue. Al kol panim yatsa lanu medivrei Hagaon Maharal Anal. Et donc, de tout ce qu'on a rapporté maintenant au nom du Maharal, chez Nihlak al ma she'amar Rambam, comme on a expliqué donc que le Rambam était... Le Maharal était en machloket avec le Rambam. Chez où Amada, et là, Atzmuto, et donc sur ce que le Rambam avait dit, qu'il y a une identification entre l'implication de Dieu dans le monde et son essence. Et lui, le Maharal, comme on le sait, avait déjà dit, et là, Atzmuto, Idbarar, le Mala, Megeder, Bechinat, Mada, que l'essence de Dieu n'est jamais atteinte par son implication dans le monde. Car toutes les qualités de Dieu ne sont que de simples rayonnements comme de simples actions. C'est-à-dire que toutes les qualités de Dieu ne sont que des attributs, donc des habits, des rayonnements. Shem bechinat ratzon vechokhma, on sait que le ratzon correspond à la sphira du keter, chokhma, da'at, etc. Ve'em peula ve'amshacha mimeno keshar animtsaim. Et donc, c'est ça le grand chidouche du texte, que Bémet, on ne pouvait même pas imaginer avant de le lire. C'est que les qualités de Dieu ne sont guère différentes des créatures elles-mêmes. De la même manière que les créatures, bien évidemment, ne sont pas l'essence de Dieu, comment on peut imaginer que l'essence de Dieu puisse s'incarner dans une créature? Ça ne peut être qu'un rayonnement de Dieu. Ce qui est marqué dans la Torah, Tselem, une image de Dieu, mais une image, ce n'est pas l'essence. D'ailleurs, le mot de la Torah est fabuleux parce qu'il correspond vraiment à ce qu'on connaît dans la modernité. Quand on prend une image de quelqu'un, on a effectivement dans la photo la représentation impeccable, des fois mieux encore. Avec une photo, aujourd'hui, on peut même embellir une personne. Mais quoi qu'il en soit, il manque l'essentiel. Ce n'est pas la personne elle-même. Et donc, quand on dit que l'homme et donc les mondes sont l'image de Dieu, ça veut dire que c'est peut-être une représentation parfaite, mais ça n'a rien à voir avec la source. Donc ça, on peut le comprendre, et on le savait. Mais le chidouche de ce texte-là, c'est que même à l'intérieur du divin, c'est-à-dire le monde des qualités divines, où là on aurait pu croire que Dieu et ses qualités font un, là on nous dit non. Lui, par rapport à ses qualités, c'est comme lui par rapport aux créatures. Il y a une distance entre lui et ses qualités, il n'est pas impliqué dans ses qualités avec tout ce que j'expliquais déjà depuis plusieurs jours. Et donc, VM, Rotzelomarch, donc ça on a vu, VM, Peula, VM, Shacha, Mimeno, toutes les qualités de Dieu ne sont qu'une une simple action. Il met en marche des mécanismes dans lesquels il n'est pas impliqué au niveau de son essence. Mais l'essence et la maout de Dieu, mais roman venisgav, mais geder à esser sfirot, est complètement au-dessus, complètement désimpliqué des 10 sfirot, ou le fichar nikra kadosh baruchu, et c'est pour ça qu'on l'appelle à kadosh baruchu. Il est kadosh, c'est-à-dire il est à l'extérieur. Baruch Hu, mais en même temps, il est source de bénédiction. Comme je vous ai déjà expliqué, la traduction Baruch Ata Hashem ne signifie pas, ce qui est stupide, béni sois-tu Dieu, comme si on a besoin de le bénir, mais la traduction exacte c'est Baruch Ata, tu es source de bénédiction, tu es toi notre bénédiction. Baruch Ata Hashem. Donc il est en même temps Kadosh, et il est en même temps Baruch. C'est-à-dire il est en même temps à l'extérieur et en même temps complètement à l'intérieur, puisque rien ne peut exister sans sa bénédiction. Velo nikra sechel baruchu, et on l'appelle pas sechel baruchu, on l'appelle pas du nom de l'intelligence. C'est idiot, puisque c'est comme si tu disais c'est un artisan, tu l'appelais Monsieur Marteau, un peintre, tu l'appellerais Monsieur Pinceau. D'accord ? Bon, ça n'a aucun sens. Comment ?
On dit Akadosh.
Comment ça s'appelle ? Akadosh, ça veut dire qu'il est à l'extérieur de toute définition. Justement, tu peux dire à l'extérieur. Il a les... Oui ?
Comment ça s'appelle cette essence ? Yudevavke, c'est ça ?
Non. Ah. L'essence n'a pas de nom. Elle s'appelle l'essence. Elle s'appelle Kadosh, qui veut dire à l'extérieur. On l'appelle par la négative. Tu es à l'extérieur. Tu es l'essence.
Ce que Amalek il a fait, le mal qu'il a fait au nom d'Hachem, en fin de compte, c'est encore l'extériorité d'Hachem, c'est pas encore son essence. Il n'a pas touché l'essence d'Hachem.
Mais évidemment, personne ne peut toucher l'essence de Dieu, évidemment. Et justement, c'est ce qu'on explique. Même les qualités de Dieu ne sont pas son essence. Ne parlons pas d'un homme, il ne peut pas atteindre l'essence. Et donc.
Et c'est là la source de toutes les idolâtries, le fait qu'il y a confusion entre les qualités.
Mais bien sûr.
Les qualités sont séparées, donc ils prennent la séparation pour l'essence.
Exactement. Ce texte-là est peut-être un des textes les plus fondamentaux de toute la pensée juive. Ce texte-là contient, on pourrait dire, des millions et des millions de livres de pensée juive. Il y a tout dans ce texte-là.
Est-ce qu'on fait une prière avec l'essence d'Hachem?
On ne prie que l'essence d'Hachem.
Ah oui?
Mais comment? Mais évidemment. Mais évidemment. C'est souvent ce qu'il vient d'expliquer. Évidemment. On ne prie que l'essence. Mais on demande à l'essence d'agir. C'est pour ça qu'on dit Barour. Dans chaque prière, on dit Barour Ata, Barour Ata. C'est-à-dire qu'on veut attirer sur nous une des qualités de l'essence. Comment? Oui, mais encore une fois, c'est des finesses philosophiques qui n'ont pas beaucoup de sens, parce que je n'ai pas envie de trop de. Yud Kevavke s'appelle Shem Haetzem, c'est le nom de l'essence, mais ce n'est pas l'essence. C'est pas l'essence. L'essence n'a pas de nom. La plus haute manifestation de l'essence du divin s'appelle Yud Kevavke, mais c'est déjà une manifestation, c'est pas encore. Si je donne un exemple au niveau d'un homme, Ron, d'ailleurs, qui est d'ailleurs très très juste, je reste un peu la question pour voir si c'est qui va subtilement deviner la réponse. De toutes les actions qu'un homme juif peut faire, d'accord, dans une journée, dans sa vie, quelle est celle qui, à votre avis, est le plus représentatif de son essence? Bon, en le disant, je vais donner la réponse, finalement. Comment? Oui, c'est juste. Shema Israël, en vérité, ce que je veux dire, c'est une action de service divin. Parce que quand je travaille, même un non-juif travaille. Et quand je mange, même un non-juif mange. Donc celle qui va le plus refléter mon essence véritable, c'est quand je fais quelque chose qui est spécifiquement juif. Dans les autres actions, je n'exprime pas quelque chose qui n'est que Israël. Quand je mets les tefilines, ce n'est que Israël. Il n'y a pas un autre homme sur terre qui met les tefilines. Même Tzedaka, non. Parce que Tzedaka, non, ça fait partie des lois de Noar, la justice. Donc même la Tzedaka, qui est pourtant une mitzvah énorme, n'est pas spécifiquement juive.
Il n'y a que le remède du Shabbat.
Comment?
Vous avez expliqué, c'est encore plus long que ça.
Mais parce qu'il n'y a personne qui mange comme nous. Qui c'est qui mange et qui s'interrompt 10 fois pour faire un Dvar Torah, etc. La manière de manger le Shabbat est spécifiquement juive. Pas le fait d'ouvrir la bouche et de mettre la cuillère dans la bouche. Mais la manière de manger, c'est pour ça que le repas de Shabbat, Dafka, comme ça descend jusque dans la matérialité, mais ça exprime l'essence particulière juive, dans ce cas-là, effectivement, c'est un acte qui est du type Yudke Vavke. Mais ce n'est pas encore l'essence elle-même. Je ne suis pas la paire de tefilines. Je ne suis pas que le moment où je mets les tefilines. Mais au moment où je mets les tefilines, j'exprime plus que tout autre être mon essence. C'est pour ça que on pourra dire, selon le langage de la Kabbalah, que mettre les tefilines s'appelle un acte qui Yudke Vavke. Quand je travaille, à ce moment-là, je n'exprime que Elohim. Parce que je fais quelque chose que même d'autres peuvent faire.
La Mila, c'est ce qu'il y a de plus.
La Mila, oui, d'une certaine manière, absolument.
Le huitième jour, c'est sur nature.
La Mila le huitième jour, oui, dans le contexte dans lequel on fait, oui. Absolument. Mais de toute façon, il y en a des milliers de mitzvot qui sont spécifiquement juives. On va pas commencer à les compter maintenant. Mais de toute façon, c'est évident qu'à partir du moment où tu fais quelque chose que les nations n'ont pas reçu de faire et ne font pas, ça s'appelle qu'à ce moment-là, tu exprimes l'essence. C'est pour ça qu'au niveau du divin, il y a différents noms. Il y a des manifestations du divin qui ne sont pas spécifiques à Israël. Ça veut dire que quand Dieu va se manifester, il peut se manifester aussi bien à Israël qu'aux nations de la même manière. Ce genre de manifestation va s'appeler Elohim. Et quand c'est une manifestation, non, ça peut être bien et mal, pas forcément. Ça peut être une manifestation bien. Et mais quand c'est une manifestation qui est possible chez les nations aussi, ça s'appelle une manifestation du type Elohim. Et quand c'est une manifestation qui est typiquement juive, ça veut dire qu'on n'a jamais vu ce genre de manifestation chez les nations, dans le bien comme dans le mal, ça s'appelle Havayé. C'est-à-dire, Havayé peut être aussi une manifestation mauvaise, d'après ce qu'on explique. Bien que dans la tradition, on rapporte sûr que Havayé, c'est le Shem Rachamim, mais d'après les auteurs de la Kabbalah, le Shem Havayé peut être aussi une manifestation mauvaise. On a des allusions, même dans le Chumash, à ça. Dans toute la Parsha Kiddushin, où à chaque fois que Dieu nous met en garde, il termine le verset en disant « Ani Hashem, Ani Hashem, Ani Hashem ». Et Rashi s'étonne, ça veut dire « Ani Hashem » alors qu'on est en train de nous mettre en garde. Hashem, généralement, c'est un nom de rachamim, de bonté et de clémence. Et Rashi là-bas explique « Ani Hashem, je suis Hashem, Yudke Vavke, d'accord, qui sait punir quand il le faut ». Et donc là, on a un grand chidouche de la Torah, surtout expliqué par Rashi, que le mot Hashem peut apparaître même dans une circonstance de mauvais. Alors, tous les commentaires posent la question, pas sur Rashi, Rashi le pauvre, il ne fait que commenter la Torah. Mais alors, comment se fait que c'est marqué Ani Hashem et pas Ani Elohim? Et on répond ce que je vous explique, enfin, ceux qui répondent comme il faut répondre, comme je viens de dire maintenant, en leur nom, parce qu'il y a toutes sortes d'explications qui ne sont pas toujours suffisamment profondes, mais au niveau de la Kabbalah, l'explication est, c'est quand c'est marqué « Ani Elohim », ça veut dire « je vous punirai », mais comme je punis aussi les nations. D'accord? Mais quand je dis « Ani Hashem », j'enverrai sur vous quelque chose d'unique, qui font que même les nations comprendront que ce type de punition, c'est spécifiquement juif. Comme on le voit d'ailleurs dans les deux parachiotes des malédictions, d'accord? Où l'une des malédictions est là-bas, que les nations, quand elles verront une catastrophe très particulière s'abattre sur le monde, diront « Oh là là, ça c'est un coup, ça c'est une punition juive. » Comme ça Rashi explique. Comme si c'était devenu, on pourrait dire, une sorte de proverbe, que quand quelque chose vraiment catastrophique, « Oh, ça c'est une punition qu'on a l'habitude de voir chez les juifs. » Ça c'est Yudke Vavke. Alors pourquoi Hachem justement nous a sorti du Shem Elohim? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il nous sorte du Shem Elohim que dans le bien. Il nous sort aussi du Shem Elohim aussi dans le mal, pour que la Hanaga, pour que, on pourrait dire, la manière dont il nous dirige soit unique dans les deux sens, quand ça va bien et quand ça va mal. Et il est clair que, par exemple, pas seulement en ce moment, mais je veux dire, depuis en tous les cas, enfin depuis des millénaires, mais en tout cas en ce moment aussi, on a une manifestation claire d'une Hanaga Havayé, pas Elohim. Je veux dire, on est un peuple qui est bombardé dans ces villes. C'est pas nous qui avons commencé, et quand on se défend, on a le monde entier contre nous. Ça veut dire une chose qui est impossible, une anaga qui est impossible chez les autres peuples. Prenez. Ça veut dire que la providence permette ce genre de choses, c'est une anaga yéhoudite particulière.
Merci Hachem.
Ça ne... Comment ?
Merci Hachem de notre protection.
Oui, merci Hachem, parce que grâce à ça, on peut encore le dire après 3500 ans, et si on n'avait pas eu ça, on serait aujourd'hui dans les musées, comme les Grecs, comme les Romains, comme les Byzantins, comme les Perses, etc. On serait que dans des musées de cire, etc. Donc merci Hachem, effectivement, de nous sortir de la Hanaga des peuples, parce que grâce à ça, tu nous sors aussi des musées des peuples et des cimetières des peuples. C'est ce qui assure que nous serons un peuple qui est le peuple de l'éternité. Donc, effectivement, merci Hachem, effectivement. Comme un malade qui est entre les mains d'un bon médecin, et que de temps en temps il fait A, il fait O, il fait C, mais il sait que le médecin le sauvera. Tandis que celui qui ne veut pas se faire soigner, bon, ben, il continuera à rigoler encore pendant un an, deux ans, trois ans, mais après, quand la maladie aura tout rongé, ben, il restera rien. Donc, effectivement, qu'on peut dire merci Hachem. Si les autres nations avaient aussi l'avantage de l'éternité, alors là on pourrait dire effectivement merci Hachem avec le sens ironique comme vous le dites. Mais à partir du moment où on est à la fin de l'histoire, pour nous, en vérité, comme je dis toujours, c'est facile d'être juif aujourd'hui, c'est facile d'avoir la Emouna. Nos maîtres, il y a 2000 ans, devaient avoir un cran inimaginable pour croire. Parce qu'ils n'avaient pas encore, ils n'avaient pas encore vu que ça marche. Mais aujourd'hui, c'est facile. Il n'y a qu'un idiot qui ne croit pas aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que on a l'histoire comme preuve que tout ce que Dieu a dit est vrai. On n'a pas disparu et on sait maintenant qu'on ne disparaîtra jamais. Pourquoi ? Parce que de toute façon, tout a déjà été essayé, rien n'a marché. Qu'est-ce qui peut encore être essayé ? Vous comprenez ? Et donc,
Tentez pas le diable.
Comment ? Même la bombe atomique, ça ne marchera pas. Pourquoi ça ne marchera pas ? Parce qu'on a un texte sur ça. La guerre de Gog et Magog, c'est une bombe atomique. Et il suffit de voir ce que dit le texte. Les gens seront pétrifiés sur place, les yeux comme ça, la langue qui sortira, ils deviendront de la cendre sur place. Comment autrement qu'aujourd'hui on peut comprendre ces prophéties de Yéhézkel ? Si ce n'est qu'une bombe atomique. Non, enfin, une bombe. C'est pas une bombe atomique, c'est la bombe. Non, c'est la bombe qui aspire tout. Parce que d'après les schémas qui sont décrits là-bas, où l'homme il est pétrifié sur place et sa peau tombe et les yeux sortent des orbites et la langue comme ça, apparemment ça a l'air... Voilà. Donc même ça c'est prévu dans les textes et pourtant à la suite de ces versets c'est marqué qu'il restera Israël. Comprenez ? C'est pas marqué que c'est... Non, c'est pas marqué que c'est en Israël. C'est marqué qu'au moment de la guerre de Gog et Magog, il y aura ce genre de mort au pluriel. Mais c'est nulle part marqué en Eretz Israël. C'est marqué qu'à ce moment-là, Dieu s'enflammera de colère et qu'il fera tomber du ciel des pierres de feu. Essayez de deviner ce que c'est. Et que les gens seront pétrifiés sur place. Ils seront en train de marcher quand tout d'un coup ils s'immobiliseront comme des statues. Et ils se désintégreront sur place, c'est marqué explicitement. Mais ce n'est pas marqué en Eretz Israël. Puisque, au contraire, le texte continue de Yéhézkel et dit qu'après, Vaïta l'Hashem Amelucha, etc., etc. Donc, c'est comme n'importe quelle, on pourrait dire, prévision. À partir du moment où on voit que quelqu'un il te dit va se passer 100 choses, et que tu vois que sur 98% des choses qu'il t'a dit qu'ils se passeront, ça s'est passé comme il l'a dit. Donc pour les 2% qui restent, tu peux lui faire confiance que là aussi ça se passera comme il l'a dit. Ça veut dire qu'on sera toujours là pour en parler. Et de toute façon, je veux dire, il ne peut rien avoir de pire. Maintenant, pour devenir sérieux, il ne peut, à raison humaine, à raison de l'histoire, il ne peut rien avoir de pire que 2000 ans d'exil, duquel nous sommes sortis plus forts que jamais, dans beaucoup de domaines. Rien ne peut être pire qu'une chose pareille. Si ça ne nous a pas achevés, rien ne pourra nous achever. C'est barour. 2000 ans d'exil, dont la cerise sur le gâteau était bien sûr la Shoah. J'ai oublié de le préciser. Si ça ne nous a pas achevés, qui peut nous faire peur aujourd'hui encore ? On continue. Et donc, voilà. Donc, l'Efikha Nikra Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça donc qu'on l'appelle Akadosh Baruch Hu. Il est en même temps Kadosh, il est en même temps retiré, mais il est en même temps source de bénédiction, donc toujours le même schéma extérieur, Kadosh, intérieur, Baruch. Velo nikra sechel baruchu, mais on ne l'appelle pas l'intelligence bénie soit-elle, d'accord ? Parce que c'est sûr que ça serait une insulte, d'accord ? C'est comme n'importe lequel d'entre nous qui a peut-être un travail X. Bon, c'est vrai, si c'est un avocat, on aime bien monsieur l'avocat, un docteur, monsieur le docteur. Bon, c'est le mythe occidental. Mais si c'est un cordonnier, monsieur le cordonnier, ça c'est déjà un petit peu moins. Si c'est un balayeur, monsieur le balayeur, c'est encore beaucoup moins. Mais au niveau de Dieu, même lui dire le chacham, c'est comme pour quelqu'un d'aujourd'hui l'appeler le balayeur. Parce que qu'est-ce que c'est la chorma pour lui ? C'est un simple instrument, c'est un balai. Mais il est complètement au-dessus de ça. Donc c'est ce qu'il dit ici. Et le velo nikra sechel baruchu, on dira jamais sur Dieu l'intelligence bénie soit-elle. Les fiches ou kadosh ou mufdal migeder bechinat chorma. Parce que Dieu est complètement au-dessus de toute notion d'intelligence. Chez sfirat chorma ou geder miyuchat, parce que dès que tu veux l'appeler Chacham, à ce moment-là, Geder, tu l'enfermes dans une limite. Vekar Chesed, même au niveau du Chesed.
Ah, si on,
comprend ces décompositions que vous avez données, que Akadosh, donc le séparé, et Baruchou, ces sources de bénédiction, c'est d'être les idolâtres, en fait, dans toutes leurs formes de culte, ils veulent attirer la bénédiction, le côté extérieur.
On ne peut pas le trouver mieux expliqué que dans la Gemara rapportée par Rashi. À chaque fois qu'on parle d'idolâtrie pratiquement, surtout tout ce qui touche l'histoire de Pharaon et du Nil, Rashi donne une phrase extraordinaire. Il dit « Un homme sert ce qui lui donne à manger ». C'est pour ça qu'il servait le Nil, parce que c'était le père nourricier. Rashi a expliqué très simplement tout le fondement d'une fausse religion. « Je sers ce qui me donne à manger ». Nekouda. Ça veut dire que mon seul but, c'est la dimension bénédiction et non la dimension kadosh, comme vous l'avez très bien dit. Nous, avant de dire Barour, on dit kadosh. Ça veut dire, finalement, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas me bénir, tu veux me bénir, moi je crois en toi. Mais si tu veux me bénir, c'est encore mieux. Nachon, parce que je pourrais mieux te servir. C'est comme l'histoire que je vous ai déjà racontée, extraordinaire. Ces deux chassidim qui se rencontrent et chacun, il veut faire le malin pour vanter la grandeur de son rabbi. Alors le premier, il parle, alors il dit, moi je vais dire mon rabbi, tu sais, ben écoute, c'est pas compliqué. Une fois, il était dans une maison avec ses chassidim, et puis tout d'un coup, il y a eu un feu qui a éclaté, on était tous au deuxième étage, et le feu, il a commencé à brûler les escaliers, on pouvait pas s'échapper. Qu'est-ce qu'il a fait, mon maître? Eh ben rien du tout, il a mis ses deux mains sur le mur est tombé, et puis tout d'un coup, il y a un escalier magique qui s'est créé, on est tous descendus, voilà. Une fois, on se promenait avec mon maître, on est arrivé devant un fleuve, et il l'a ouvert, on est passé au travers. Mais Kitsou, bon, je ne vais pas vous saouler avec ces histoires-là. Il a raconté tous les miracles que le maître avait fait. Et il dit, maintenant toi, vas-y, raconte-moi la grandeur de ton maître. Il dit, écoute, moi je raconte une histoire extraordinaire. Moi j'étais un homme d'affaires, d'accord, particulièrement brillant, d'accord. Et grâce à Dieu, je veux dire, j'avais. Et un jour, je suis venu demander la bénédiction à mon maître pour une affaire où je devais investir pratiquement toute ma fortune, mais si ça marche, je devenais l'homme le plus riche de Russie. D'accord ? Mon maître a vu, il m'a dit, c'est impeccable mon fils, investis, tu vas devenir millionnaire. Eh bien, j'ai tout investi et j'ai tout perdu. Alors l'autre le regarde, il lui dit, mais alors, il est où le miracle ? Et bien, il dit, le miracle, c'est que je suis resté son chassid.
C'est joli.
Un Oscar pour cette histoire. Le miracle, c'est que je suis resté son chassid. Ça veut dire que c'est pas la réussite qui déterminait ma relation à lui. Et c'est une blague, mais c'est d'une profondeur incroyable, comme toutes les blagues juives. Parce que ça montre quoi ? Qui est le plus intelligent ? Le deuxième. Il a voulu lui faire comprendre au deuxième que malheur à celui qui fonde une relation uniquement sur l'intérêt donnant-donnant. Voilà. Si tu crois en ton rabbi uniquement parce qu'il te bénit, en vérité tu crois tout simplement à une banque suisse, tout simplement, Nekouda. Et c'est pas un rabbi, c'est une banque. Et encore, c'est plus évident.
Voilà.
Mais si tu t'attaches à un maître, que sa bénédiction apparemment marche ou non, parce qu'en vérité, si on doit essayer de comprendre mieux l'histoire, si c'est un vrai rabbi, on doit être ma'amine que la bénédiction a oui marché, mais elle a marché à un autre niveau. C'est-à-dire quand il lui a dit tu vas devenir immensément riche, peut-être qu'il le voit à un niveau justement de Emouna. C'est-à-dire que la Emouna qui va naître en toi par le fait que tu vas rester attaché à moi, bien que ça ne va pas marcher comme tu l'as compris toi, ça c'est une richesse inimaginable qui vaut tous les milliards, on pourrait dire terrestres, de l'affaire que tu m'as proposée, que tu m'as montrée. C'est peut-être ça le sens de l'histoire. Et donc c'est pareil pour nous avec Hachem. On dit d'abord Kadosh. Ah Kadosh. Baruchou, pourquoi Baruchou, on n'est pas des masos? Évidemment, si on a aussi la réussite terrestre, ça va nous permettre de faire du bien sur terre. Si on a des biens matériels et qu'on peut en faire profiter d'autres. Si on a la santé et qu'on peut servir Dieu. Évidemment qu'on est content. On n'est pas une religion du martyr et de on pourrait dire de la... On s'est compris. Mais, ça vient en deuxième position, après Akadosh Baruch Hu. Fondamentalement, tu fais ce que tu veux.
L'essence et les
attributs. Voilà. Mm-hmm. On te sert pour ton essence. Si on peut profiter de tes attributs, tant mieux. Et sinon, tant mieux aussi. Et donc, c'est ce qu'on dit. Les fichiers où, donc, où Geder Meyuchad, Vechen Chesed. De même, donc, le Chesed. Dire, vous imaginez qu'on appellerait Dieu, c'est ce que font beaucoup, Achesed Baruchou, Mais c'est ce que, mais c'est ce que, c'est ce que, c'est ce qu'on dit en français, le Dieu d'amour. C'est, ou le bon Dieu. La vérité, c'est ce qu'on dit quand on dit le bon Dieu. C'est-à-dire qu'on a enfermé Dieu dans un attribut. Voilà. Ou Al-Akbar, ça veut dire Dieu de la force. On l'enferme, parce que j'ai dit, nous on dit le Dieu un. C'est-à-dire qu'il est tout à la fois. Il est l'unité parfaite. On ne lui donne pas une qualité particulière. Vous comprenez ? Chesed, aval Hashem yidbarar en lo geder. Mais en vérité, sache que Dieu ne peut être enfermé dans, une quali- dans aucune qualité. Bien sûr que de lui émane l'amour comme émane la force. Il est le Dieu d'amour comme il est le Dieu Akbar aussi. Seulement, ce sont uniquement des attributs et non de l'essence. Et donc, on ne va pas passer notre vie à dire Al-Akbar, Al-Akbar. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas que ça. Il est aussi amour. Et ceux qui ne disent qu'il est que la force oublient qu'il est que l'amour. D'un autre côté, ceux qui ne l'appellent que le bon Dieu oublient aussi qu'il est le Dieu de la force. Et donc, chacun est coincé dans son idolâtrie. En lo geder et la pashut betachlit apshitut. Dieu est complètement désincarné de tout attribut. Il est déshabillé, désincarné. Les pshitut, ça veut dire il est complètement déshabillé. Tu ne peux pas l'enfermer dans un habit précis qui est une qualité. Et c'est pour ça que le Tosfot Yom Tov, en rapportant l'avis de son maître, dit que c'est ce que pensent les Mekoubalim, car effectivement, c'est vrai. Alors il continue et il dit Veine behemet me'ot tzadku divrei ha'gaon Maharal beze. Alors maintenant, le Tzemar Tzedek dit effectivement, le Maharal a parfaitement raison. Il ne fait que reprendre la chita de la Kabbalah, qui est la chita de la Chassidut. C'est vrai qu'il y a une différence fondamentale entre l'essence et les attributs. Ce que le Gaon, ce que le Maharal dit, que l'essence de Dieu est complètement au-dessus de toute notion d'implication. Les Fichan Nikra Kadosh, c'est pour ça qu'on l'appelle Kadosh. Ou Kemoshe Katuv Gamken Bekamem Komod Barichut, car cette chose-là, je l'ai déjà moi-même expliqué dans de nombreux endroits. Ar Mikol Makom, mais malgré tout, Divrei Rambam Zal Gamken Emet. Le Rambam a malgré tout aussi raison. Ah, comment le Rambam a aussi raison? On va voir. Mais Mashekatouf chez Wamada, quand Dieu, quand il dit le Rambam que Dieu s'identifie à son monde, il a malgré tout raison. Besod Itlapshut Orensov Baruch Hu Aledet Tzimtzumim Rabim, parce que le Rambam était un grand Mekoubal. Et il fait allusion au Sod du Tzimtzum. Ça veut dire que ici, le Tzemar Tzedek est en train d'affirmer que le Rambam connaissait le Sod du Tzimtzum bien avant le Ari HaKadosh, puisque c'est ce qu'on est en train de dire. Sache que quand le Rambam dit que Dieu s'identifie à son monde, il parle de la dimension divine qui est apparue après le Tzimtzum. Donc, Besod, c'est le secret. Donc, le Rambam fait allusion au secret. Itlapshut Orensof Aliede Tzimtzumim Rabim, de l'habillement du Orensof dans de très nombreux. Dans de très nombreuses contractions, mais Prinat a Esser Sfirot de Hatzilut, dans des contractions, par exemple celle des 10 Sfirot de Hatzilut, chez Az, Shayar Lomar ou Amada, et à ce niveau-là, on peut dire qu'il est impliqué. Alors, pour nous qui venons de lire tout ce que le Maharal vient de dire, on a l'impression qu'on est en train de répéter la même chose. Alors, où se situe la différence ? Qu'est-ce que le Tzemar Tzedek dit ? Que finalement que le Rambam, lui, n'a parlé qu'après le Tzimtzum. Mais apparemment, c'est exactement ce que dit le Maharal. Qu'il y a une différence entre l'essence et les attributs. Alors, sans parler ni d'essence ni d'attributs, le Tzemar Tzedek dit, mais le Rambam, en vérité, lui, ce qu'il dit, c'est uniquement d'après le sod du Tzimtzum.
C'est...
Mais non, c'est exactement ce qu'a dit le Maharal.
En ce qui concerne la différence entre l'essence et les attributs,
oui.
L'essence, on va prendre l'exemple du soleil, l'essence reste le soleil, la boule,
oui.
Et après les attributs, c'est les rayons du soleil.
Nahon.
Maintenant, ce qui concerne l'essence, si elle se contracte.
Mais c'est pas l'essence qui se contracte, non, c'est. Oui.
C'est le simsou.
Oui.
Si l'essence se contracte et elle rentre dans des kélis,
oui.
Qui sont formés, qui sont eux les attributs, ils rentrent dans l'équilibre. C'est l'essence qui rentre dans l'équilibre.
Vous avez parfaitement raison, mais le problème c'est que c'est sûr que ce n'est pas ça, c'est pas l'essence qui se contracte. L'essence ne se contracte pas, c'est la lumière qui se contracte, c'est le Or En Sof, c'est pas l'essence.
Alors Alors le Rem Sof, c'est quoi? C'est pas le...
C'est l'émanation de Dieu, lumière.
Ça aussi, c'est des attributs, le Rem Sof.
C'est la racine de tous les attributs. Mais en vérité, on va toucher justement au problème. Parce que vous avez raison, mais dans la formulation, ce n'est pas juste. Mais vous avez raison sur la différence entre les deux. C'est-à-dire, en vérité, le Tzimtzum a eu lieu au niveau de ce qu'on appelle le Or En Sof. Le Or En Sof étant ce qu'on pourrait appeler la matière première à partir de laquelle on a formé les attributs. L'essence ne s'est pas contractée, bien évidemment. L'essence, elle est au-dessus de toute notion qui appartient aux catégories du monde. Donc, il y avait le Or En Sof, il s'est contracté, et des contractions du Or En Sof sont apparues les sphirotes de Hatzilut. Ça, c'est dans le langage des Mekoubalim. Dit le Tzemar Tzedek, c'est à ça que fait allusion le Rambam. En quoi c'est différent, alors, de ce que dit le Maharal? Alors, la différence, elle est extrêmement dac. Et je vais d'abord expliquer ce qu'est le sens de la contraction d'après le Rambam, et donc, en vérité, le Ari HaKadosh, pour mieux comprendre après le point de différence avec le Maharal. Je vais donner un exemple dans l'homme. Puisque tant qu'on peut, on cherche toujours des exemples à partir de nous. Quand on sait qu'on peut plus, on dit on peut plus. Mais selon le principe « Umifsari achaze eloka » que j'ai le droit de me servir de ma chair pour comprendre le divin, jusqu'à que je ne puisse plus le faire. Donc on va commencer. Un homme a différentes qualités. D'accord ? Un homme a des qualités, par exemple, il est courageux, bon et intelligent. Ces qualités-là sont, on pourrait dire, des restrictions de son être. Parce qu'au moment où il est courageux, à ce moment-là, il ne déploie pas la même force que quand il est bon. Quand il est bon, il est tendre, il est gentil, il est à l'écoute. Et quand il est courageux, c'est un soldat dans les commandos qui risque sa vie et qui doit aussi tuer pour réussir sa mission. Donc, au moment où il est courageux, il ne dévoile pas la même qualité que quand il est bon. Okay. Maintenant, ces deux qualités-là proviennent, on pourrait dire, d'une même source au départ. C'est quoi la même source au départ? Je vais donner un exemple très simple. Mais c'est un exemple, ça veut dire qu'on peut changer cet exemple des millions de fois par rapport au contexte. Cet enfant, par exemple, a reçu une éducation d'aimer son peuple et d'aimer sa terre. Et donc, on lui a donné les valeurs de ce que c'est être un juif en Eretz Israël. Qu'un juif en Eretz Israël doit s'occuper de la dimension du peuple et de la dimension de la terre. Et c'est l'éducation qu'il a reçue. Automatiquement, cette éducation-là va engendrer chez lui un amour de l'autre et le courage d'affronter le danger pour se battre pour son peuple sur sa terre. Ça va engendrer deux qualités complètement différentes, puisque dans un cas, il est dur et peut-être même cruel, car il faut des fois être cruel, et dans l'autre côté, il est tendre et bon. Mais la source est la même. L'amour de son peuple sur sa terre. C'est l'éducation qu'il a reçue. Voilà. Maintenant, cette éducation-là, elle est beprinat en sof. Elle est encore, on pourrait dire, illimitée, tant qu'elle ne s'incarne pas dans des choses précises. Par exemple, donnons l'exemple de quelqu'un qui aurait reçu un autre enfant qui a reçu la même éducation, mais il ne la met pas en pratique. D'accord? Il ne fait pas son service militaire. Et il s'arrange toujours pour ne pas répondre au téléphone quand il sait qu'on l'appelle pour donner à Tzedaka ou je ne sais quoi. Donc il a reçu la même éducation, mais chez lui ça reste beprinat ensof. C'est ensof, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite, il n'a pas pu contracter cette éducation, cette énergie qu'il a reçue. Voilà. Donc si je reprends maintenant ce modèle-là, je comprends par rapport à ce que disent mes Koubalim. Au départ il y a une énergie ensof, ça veut dire une potentialité énorme. Il faut la contracter pour qu'elle puisse faire apparaître des midot précises, qui sont les 10 attributs divins. Maintenant, les 10 attributs divins sont, on pourrait dire, animés par la même énergie du départ, qui s'appelle le Or En Sof. Mais dans chaque attribut, cette énergie-là va s'exprimer différemment. Quand je suis soldat, l'éducation que j'ai reçue va se transformer en force et courage. Et lorsque je suis, par exemple, dirigeant communautaire, cette éducation va se traduire par le fait que je vais faire du bien à ma communauté. D'accord. Et ainsi de suite, quantité d'autres choses, d'autres réceptacles, d'autres contextes. Donc maintenant, si je reviens au niveau de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu a un Or En Sof, il a une énergie infinie de bien, mais c'est une énergie de bien, ça veut dire avec une potentialité de bien inimaginable, et cette énergie de bien va se contracter dans différentes fonctions qui sont les 10 attributs divins. Mais comme ce sont des fonctions uniquement, on va pouvoir avoir des fonctions aussi différentes que la gvoura, la rigueur, et le chesed, la bonté. Alors comment ça peut venir de la même source? J'ai donné un exemple, je pense, très clair. Ça vient de la même source. Ce n'est pas une contradiction. Donc maintenant, c'est ce que dit le Rambam. Le Rambam dit que quand on explique que Dieu est impliqué complètement dans son monde, ou Amada Vuayodea, il fait allusion à la contraction de cette énergie du départ qui effectivement est complètement présent dans une mida particulière, et c'est la même énergie qui est aussi complètement présente dans une autre mida différente. La même éducation qui se traduit par du courage au combat, se traduit la même éducation par la bonté dans la communauté. C'est la même éducation, il n'y a rien de plus ni de moins. C'est ça ce que le Rambam m'explique, qu'il y a une adhésion totale entre le Yodéa et le Mada, entre Dieu et son monde, et il fait allusion à cette énergie Ensof qui est dans les mondes.
Est-ce que ça rejoint alors le débat que vous aviez appris il y a longtemps dans Kanya sur les deux écoles sur le Tzimtzoum?
D'une certaine manière, oui.
Le Rambam, il est comme le Hari en pensant que le Tzimtzoum n'est qu'apparent.
Absolument.
Alors que du côté du Maharal éventuellement et de Vilna,
100%.
On serait dans un réel Tzimtzoum.
Absolument. C'est là que va y avoir la différence. Le Maharal, en vérité, va donner naissance plus tard dans cette dimension. Bien que, c'est ça le paradoxe, bien que le Maharal est peut-être le grand maître à penser, le premier grand maître à penser de toute la chassidoute. On sait que les livres du Maharal étaient les livres de chevet du Baal Shem Tov. Il n'allait jamais nulle part sans porter avec lui un livre du Maharal. Mais paradoxalement, dans ce domaine-là de la vision du Tzimtzoum, le Maharal va engendrer l'école du Gaon de Vilna, qui, elle, voit véritablement, on pourrait dire, une distinction claire entre l'essence et le rayonnement. D'ailleurs, comme l'exemple du soleil, là où est le rayonnement, il n'y a pas du tout de soleil. Il y a véritablement, une distance qui sépare le Mahor, le Makor, la source de son rayonnement. Tandis que d'après la Chassidoute, à l'endroit même du rayonnement se trouve l'essence. Mais l'essence est cachée, tu ne la vois pas. C'est pour ça que... Et le Tzimtzoum, c'est pas, on pourrait dire, que on sépare la source de son rayonnement, c'est pas ça le Tzimtzoum, c'est qu'on voile la source au rayonnement. Mais la source est là. Je vais expliquer après, en quelques minutes encore, quelle est encore l'incidence entre les deux. Donc je répète, d'après le Maharal, là où il y a le rayonnement, là, il n'y a pas la source. Le rayonnement vient de la source, mais là où il y a le rayonnement, il n'y a pas de la source. Ça veut dire qu'il n'y a, il n'y a rien, on pourrait dire, de l'essence de Dieu dans ses attributs. Le Rambam dit, enfin, Tzemar Tzedek fait dire au Rambam, qu'en vérité, non, qu'il y a uniquement un tzimtzoum, une contraction, c'est-à-dire qu'il faut comprendre dans le sens qu'il y a un voilement de la présence de l'essence à l'endroit de l'attribut. Mais l'essence est là, à l'endroit de l'attribut. Oui.
Pourquoi est-ce qu'on voit une contradiction? Je ne vois pas d'où on sort la contradiction entre le Maharal et le Rambam, alors qu'il semble dire simplement...
Est-ce que le Maharal a dit qu'il ne pensait pas comme le Rambam?
Il semble résoudre cette contradiction en disant quoi? En disant le Rambam, lui, parle de Hachem lorsqu'il est dans les attributs.
Oui.
Alors que le Maharal, lui, parle de la source d'Hachem qui est au-delà des attributs. Donc c'est comme s'il parlait de deux choses différentes. Donc les deux sont vraies, simplement il ne parle pas de la même chose.
C'est ce qu'on a toujours dit, moi le premier jusqu'à maintenant. Mais tu vas voir par la suite que Tzemar Tzedek... Globalement, effectivement, il n'y a pas de marloquette. Globalement, il n'y a pas de marloquette. Comme globalement, il n'y a pas de marloquette entre le Gaon et le Baal Shem Tov. Tout le monde est d'accord qu'il y a eu un Tzimtzum et que de toute façon, on n'a pas de lien direct avec l'essence. Dit comme ça, c'est exactement ce qu'on a dit dans tous les cours précédents. Il n'y a effectivement pas de marloquette entre le Rambam et le Maharal, puisque tout le monde est d'accord qu'il y a l'essence et il y a les rayonnements. Mais maintenant, c'est quelque chose de nouveau ce qu'on commence aujourd'hui. D'une manière extrêmement subtile, Le Tzemar Tzedek va malgré tout faire apparaître une petite différence qui est en vérité fondamentale au niveau de la pensée et du vécu, comme on va le démontrer. Une petite différence malgré tout dans la conception du Tzimtzoum et dans la conception du rapport entre l'essence et l'attribut. Et cette différence-là va faire naître en vérité les deux grandes écoles de Kabbalah, qui sont l'école du Gaon et l'école du Baal Shem Tov, et c'est pour ça qu'elles sont tellement opposées, Chassidim et Mitnagdim. Parce que ça va changer énormément après au niveau de la conception, de la relation à Dieu et du vécu aussi. Donc je sais que pour l'instant on marche sur des œufs, c'est pas facile, on va tout doucement.
On le voit, dans le texte maintenant, il semble pas faire apparaître cette différence pour l'instant.
Comment ?
Pour l'instant, dans les trois quatre lignes qu'on vient de lire, il semble pas faire de différence. Ils disent... Un, il parle de...
Dans la formulation, oui, puisque le Tzemar Tzedek aurait dû dire à ce moment-là, il aurait dû être beaucoup plus clair. Tu vas voir que ça va apparaître encore plus après. Il aurait dû dire au Maharal, mais le Rambam dit exactement comme toi. Et comme toi, il parle de ce que tu parles toi aussi. Lui aussi fait la différence. Et il dit pas ça. Il explique le Rambam. Il dit le Rambam lui parle après le Tzimtzum. C'est déjà un langage de justification de Mahloket. Le Tzemar Tzedek ne dit pas. Mais Maharal, tu n'as rien compris au Rambam, le Rambam dit exactement ce que tu dis. Non, il explique maintenant, il prend la défense du Rambam et il l'explique. Mais tu verras qu'il ne dira jamais clairement que le Rambam pense en tout point comme le Maharal. C'est-à-dire, à 99%, il pense comme, sur les principes de fond, il pense comme le Maharal. C'est pour ça qu'on a toujours dit, et c'était juste de le dire à ce moment-là, que oui, il n'y avait pas de marloquette entre les deux, mais... Au niveau des détails, on va voir qu'apparaît, oui, une petite marloquette. Mais on le verra par la suite, on va commencer à partir de dimanche, vous verrez. Si je peux faire encore quelques lignes, vous allez voir. Arbe emet, donc, divra rambam gam ken emet. Regarde, cette phrase-là, elle veut tout dire. Il ne dit pas divra rambam, même divra amaral, il dit gam ken emet.
Parce que s'il parle, il dit, c'est deux, vous ne parlez pas de la même chose.
Et pourtant, oui, il parle de la même chose, puisque...
Non, il ne parle pas de la même chose.
Il parle au niveau de l'atmo. Le Rambam, lui, parle au niveau de la pluie.
Oui, mais ça explique. Ça s'appelle un sens où quand les...
C'est pas que vous dites la même chose. Ils disent, vous parlez de deux choses différentes. C'est deux... C'est pas une chose. La même façon de résoudre une marque. Une fois,
il va dire explicitement dans trois lignes que lui-même n'est pas d'accord avec le Maharal et qu'il opte plus pour la chita du Rambam. Par exemple, il dit après, juste le dit, mais on le relira, trois lignes après, Deine a falpiche zehemet, mashekatava gaon Maharal, bien que c'est vrai que ce que dit le Maharal est juste, Shayidia ou Peula, que les qualités de Dieu sont de simples actions. Mikolma comme ena domé mamash les charapes. Mais je ne suis pas d'accord de dire que c'est exactement la même chose. Et c'est là qu'il va y avoir une différence. C'est là qu'il va pencher plus pour le Rambam que pour le. Parce que le Rambam dit non, il y a mamash, une fusion entre lui et ses qualités. Alors lui, après le Tzimtzum, mais il y a une fusion quand même. Alors qu'au niveau du Maharal, le Maharal n'a pas arrêté de dire « Mais non, au niveau de Dieu, il n'y a aucune différence entre ses qualités et les créatures. Tout n'est qu'extérieur à lui, tout n'est que des rayonnements, c'est une simple péoula. » Et là est la différence entre les deux. Tu comprends ? Là, on touche un point essentiel au niveau de ce qui va être après l'origine de la marloquette entre les deux grandes écoles de la Kabbalah. Et la chita du Maharal, c'est de voir tout ce qui émane de Dieu... comme étant, on pourrait dire, séparé de lui, comme le rayon par rapport à la boule. Le rayon n'est qu'attaché à la boule, il émane de la boule, mais il n'a plus rien à voir avec la boule. Et là où est le rayon, là où arrive le rayon, par exemple chez nous, la boule, heureusement pour nous, n'est plus du tout là. Et tandis que la chita du Rambam, et c'est ça peut-être un des plus grands chidouches de la chassidoute, c'est de montrer que le Rambam est peut-être le premier grand chassid de l'histoire. Il avait déjà compris tous les principes de la chassidoute des siècles avant le Baal Shem Tov, mais caché dans son langage philosophique, que le Rambam, lui, ce qu'il va expliquer, c'est qu'il y a certains rayonnements, c'est-à-dire ceux qui sont ses qualités à lui, où il y a une véritable fusion entre le Or En Sof et la qualité elle-même. Pas entre le Etzem et la qualité, mais entre le Or En Sof et la qualité. Alors que pour le Maharal, les qualités, c'est-à-dire les manifestations à notre niveau, n'ont plus rien à voir avec toute notion de Ensof. Ni l'essence, ni le Or Ensof. Vous voyez ? Si je pouvais donner un exemple, mais je ne sais pas si l'exemple, comme on n'est pas suffisamment préparé, mais si je pouvais donner un exemple pour expliquer. Si je pourrais donner un exemple pour expliquer. Je vais essayer de donner un exemple. Je ne dis pas qu'il est bon, mais c'est l'exemple qui me vient maintenant à l'esprit. Et finalement, je pense qu'il est oui, bon. Imaginez-vous deux personnes qui font du bien à Shimon. Sa mère et la nourrice. Shimon, l'enfant, le bébé, a mal au ventre, machin, etc., peu importe, d'accord. Et on va imaginer le cas où c'est la mère qui s'occupe de Shimon et la nourrice qui s'occupe de Shimon. Vu de l'extérieur, c'est clair qu'il est possible de ne voir aucune différence entre la manière dont la mère ou la mère dans la nourrice, c'est clair, d'accord. Pourquoi? Parce qu'une nourrice peut très bien aimer l'enfant dont elle a la charge, autant et plus encore qu'une mère, vue de l'extérieur. Mais c'est clair que le sentiment profond, inexplicable, qui anime la mère au moment où elle porte son enfant dans les bras, ne pourra jamais se retrouver chez la nourrice. Parce que c'est physiquement, psychologiquement impossible. 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 De l'eau ne peut pas être du feu ne peut pas être de l'eau, le blanc ne peut pas être noir, le noir ne peut pas être blanc. C'est des structures fondamentalement différentes. C'est-à-dire que dans les actions de bercer l'enfant, chez la mère s'exprime l'essence même de son amour, alors que chez la nourrice s'exprime une fonction uniquement, qu'elle est nourrice et elle fait bien son travail. Je pense que l'exemple est excellent. Je n'étais pas sûr au départ, mais en le disant, donc il est excellent. Alors, vu de l'extérieur, tu ne vois pas la différence. Vu de l'extérieur, tu regardes la chita du Gaon, la chita du Baal Shem Tov, je peux te garantir que tu ne verras pas la différence. Mais compris de l'intérieur, c'est tout à fait différent. Compris de l'intérieur, les maîtres sont posés la question. Jusqu'où va l'implication de Dieu dans ces péoulot? La chassidoute voit l'implication de Dieu dans le monde comme celle d'une mère par rapport à son enfant. Alors que la Kabbalah plus lituanienne verrait l'implication comme une nourrice par rapport à son enfant. Il manque la dimension du Etsem. Oui. C'est à ce niveau-là. Alors ça va impliquer toute une catégorie, toute une suite, on pourrait dire, d'actions dans le vécu. Et ce qui va faire la différence fondamentale entre un vrai chassid et un vrai mitnaged, dans le sens pas négatif du terme Khalila. Ça va impliquer une différence au niveau du vécu énorme, énorme, énorme entre la vraie chassidoute, parce qu'aujourd'hui, où est la vraie chassidoute? La vraie chassidoute et le vrai autre courant. C'est là que ça va se jouer. Et c'est né au niveau de cette marloquette fabuleuse entre le Maharal et le Rambam. Et le Rambam, finalement, pendant pratiquement 500 ans, 600 ans, est resté complètement incompris. Jusqu'à ce qu'arrivent les grands maîtres de la chassidoute et expliquent que le Rambam en vérité cachait un trésor pendant des siècles, et il a fallu qu'arrivent les grands maîtres de la chassidoute pour ouvrir ce trésor et dévoiler que le Rambam faisait allusion en vérité au fondement même de la chassidoute du Baal Shem Tov. Oui. On verra par la suite, oui. Okay.